Sois béni. Alléluia. Bonjour à chacune, à chacun. Et nous prenons plaisir à louer le Seigneur ensemble. Peuple de Dieu est un peuple qui loue, un peuple qui adore. Et nous voulons continuer à faire monter vers le Seigneur nos louanges. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais avec vous parler d'un personnage ce matin de la Bible. Et pour ce faire, on va lire trois passages. Dans le livre de Josué, chapitre 2, Josué, chapitre 2, à partir du premier verset, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent. Et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. C'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin, qu'elle avait arrangé sur le toit. Nous allons lire un second texte dans le chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Le dernier passage, pour l'instant, se situe dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 30. Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous avez certainement deviné de quel personnage nous allons parler ce matin, de Rahab. Rahab dont il est dit que c'était une prostituée. Rien que ça. Ça commence bien. On aurait pu choisir meilleur personnage. Et seulement dans Hébreux chapitre 11, il est question d'elle. Au milieu de certains qui ne causent aucun problème, comme Abraham, Moïse, Noé, Enoch et bien d'autres encore, il y a une femme qui, en plus, ne fait pas partie du peuple de l'Alliance, qui est une Cananéenne, et en plus, il est dit d'elle qu'elle est prostituée. D'ailleurs, ce qualificatif de prostituée lui est souvent attribué presque partout quand il est question d'elle, sauf peut-être dans quelques rares passages, notamment dans la généalogie de Jésus, on la retrouve, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Jacques la cite aussi, on y reviendra, et quand il la cite, il l'appelle la prostituée. Dans le Nouveau Testament, on parle d'elle à trois reprises. Matthieu, Hébreu et dans l'épître de Jacques. C'est important que nous puissions comprendre qui est cette femme. Et pour cela, il nous faut nous rappeler cette histoire de la prise de Jéricho. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ça fait environ déjà 40 ans, et par la main puissante de Dieu, il s'est passé toutes ces plaies en Égypte, puis après la mer Rouge qui s'est écartée, qui a laissé passage au peuple d'Israël, et les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et puis ils ont, pendant 40 ans, tourné un petit peu en rond dans le désert, non pas parce que Dieu l'avait voulu, au départ, Dieu avait voulu quelques jours simplement, mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité, pendant 40 jours, excusez-moi, ils ont tourné en rond dans le désert, mais là, même dans le désert, il y avait la main de Dieu, tous les jours déjà, il y avait la manne, alléluia, un miracle chaque jour, pour le peuple de Dieu. Sans compter les cailles, sans compter tout ce qui s'est passé dans le désert, sans compter la construction du tabernacle avec la nuée qui venait sur le tabernacle. Et tout ça, ça s'est su, tout ça, eh bien, on a entendu parler dans les pays alentours de ce qui se passait avec ce peuple, comment ils sont arrivés dans le désert, comment ils sont sortis d'Égypte. Et les gens de Jéricho savent ce qui s'est passé. Ce sont des vaillants soldats. C'est la première ville après la traversée du Jourdain qu'ils vont s'emparer. Et là encore, ils vont traverser le Jourdain à pied sec puisque le Jourdain va s'ouvrir comme auparavant, 40 ans auparavant, la mer Rouge. Et les hommes, les femmes de Jéricho ont entendu parler de cela. Et il nous est dit que ce sont des vaillants soldats, mais ils sont terrifiés à l'approche du peuple d'Israël. Ils se barricadent, ils se sont enfermés. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Personne ne peut sortir parce que, ça aurait pu être, l'occasion que les enfants d'Israël se saisissent de quelques hommes ou femmes qui sortent de Jéricho pour les faire parler. Ou à l'inverse, personne ne peut entrer parce qu'il pourrait ainsi voir comment est construite la ville. Sauf que deux hommes ont pu entrer quand même. Deux espions envoyés secrètement par Josué. Nous sommes dans un contexte de guerre, donc les choses sont sérieuses. On s'espionne les uns les autres en temps de guerre, on cherche les lieux faibles du pays, etc. C'est un temps de guerre et Josué les envoie secrètement, personne ne le sait, et ils ont réussi à s'introduire dans cette ville de Jéricho, on ne sait pas trop comment, mais ils ont réussi à s'introduire dans la ville de Jéricho pour essayer d'avoir des renseignements. Et là, il va se passer une histoire toute particulière. C'est vrai que cette histoire ne va pas avoir d'influence sur la prise de Jéricho. Josué n'aurait pas envoyé deux espions, ça n'aurait rien changé. Jéricho aurait été prise. Ses murailles auraient tombé aussi, elles auraient été détruites. Mais cet envoi de deux espions, si elle n'a pas d'influence directe sur la prise de Jéricho, va avoir une incidence sur l'histoire générale d'Israël. Vous pourrez se demander, mais alors pourquoi ? Parce que, en fait, il va se passer quelque chose, c'est que à l'intérieur de cette ville, il y a une femme avec sa famille, Rahab. Et Rahab va héberger, va cacher ses espions. Elle va être avec sa famille la seule qui sera épargnée, on va y revenir. Et elle deviendra après l'arrière-arrière-grand-mère du roi David, de qui vient le Messie. C'est pas rien. Il y a cinq femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Cinq femmes. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth, il y a Bathsheba, la femme d'Uri, et puis il y a bien sûr Marie. Cinq femmes, c'est tout. Et à chaque fois, c'est qu'il y a une raison particulière. Tamar, il y a une raison particulière. Et puis, Ruth, il y a une raison particulière. Et puis, il y a Rahab, une autre raison particulière. À chaque fois, il y a une raison particulière. Il en est de même pour Bathsheba et puis aussi Marie. Et donc, elle fait partie de cette généalogie de Jésus. Donc, on voit que cette simple histoire, j'allais dire, va avoir une incidence sur l'histoire générale d'Israël. Et de même, il en va de même pour nous. Nos histoires personnelles s'imbriquent dans l'histoire générale de l'humanité et s'imbriquent dans une histoire qui aujourd'hui commence à arriver, celle de la fin des temps. Car il y a quand même certaines similitudes. Cette trompette, ça vous fait penser à rien, ça ? Sept sacrificateurs, sept trompettes. Ça fait quand même référence à quelque chose qui se passe dans le livre de l'Apocalypse, où il y a ces sept trompettes qui annoncent certaines choses. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas simplement, j'allais dire, une guerre. Il y a quelque chose de spirituel dans cette prise de Jéricho et quelque chose qui préfigure une autre prise qui arrive un jour, car il y a un jour de jugement qui va s'abattre sur ce monde. Ça, c'est l'histoire générale de l'humanité. Mais dans cette histoire générale de l'humanité, il y a notre propre histoire à nous. Il y a les histoires aussi qui arrivent dans l'histoire. Il s'est passé certains événements dans la Seconde Guerre mondiale ou dans toutes sortes de guerres. Et dans ces guerres-là, il y a parfois des histoires de famille qui se passent, qui sont influencés par ces guerres, par ces événements qui arrivent, et il y a une interaction qui se passe jusqu'au moment où Dieu intervient et on voit la main de Dieu intervenir et on se dit « mais ce n'était pas en vain que tout cela est arrivé ». Dieu travaille de loin, il tient toutes choses entre ses mains et nous voulons lui faire confiance, nous voulons lui faire pleinement confiance. Ce n'est pas le seul cas dans la parole de Dieu. On le voit avec Esther. Esther, cette orpheline, il va se passer une histoire dans l'histoire. Il va se passer une histoire particulière, une histoire personnelle pour Esther. Sa vie a bien mal commencé, élevée par son oncle, et puis elle va être prise pour faire partie d'un harem. Il y a mieux pour les jeunes filles, n'est-ce pas ? Quand même, bon, orpheline, prise pour être dans un harem, on souhaiterait mieux pour son enfant, quand même. Mais on voit que derrière tout ça, eh bien, dans cette histoire, eh bien, il y a l'histoire générale aussi du peuple d'Israël, parce que Dieu travaille de loin et il prépare aussi, avec l'épreuve, le moyen de s'en sortir. Et là, le moyen de se sortir de l'épreuve pour le peuple d'Israël, c'était cette fameuse Esther orpheline. Et puis, on pourrait parler de Ruth aussi. Là encore, une histoire dans l'histoire. Il faut quand même savoir que celui qui va se marier avec Ruth s'appelle Boaz, et c'est qui Boaz ? Le fils de Rahab. C'est le fils de Rahab. Deux histoires, Rahab va engendrer de Salmon, celui qui va devenir son mari, qui est l'enfant d'Israël, va enfanter Boaz, et Boaz va se marier par un concours de circonstances qu'on connaît avec Ruth, qui elle aussi n'est pas juive, c'est une Moabite. Sans tout ce qui serait passé, jamais il ne se serait marié avec une Moabite. Mais déjà, cet homme, Boaz, sait d'où vient sa mère. Il sait d'où vient sa mère. Et il y a eu la main de Dieu parce que Ruth deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. Vous voyez, dans nos histoires, il se passe quelque chose qui peut avoir une influence sur l'histoire générale. Et nous savons que l'Église de Jésus-Christ, a un impact bien plus important qu'on peut s'imaginer sur l'histoire du monde. Peut-être, on pourrait penser que nous sommes insignifiants. Parfois, nous sommes méconnus, quoique bien connus, comme dit l'apôtre Paul. L'Église est méprisée, regardée comme un groupement de personnes, peut-être parfois, excusez-moi l'expression, attardées, qui viennent d'une autre époque. Mais l'Église a un impact sur l'humanité et sur son histoire extrêmement important. Des nations ont été bouleversées par le message de l'Évangile. Il n'y a qu'à voir l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe qui a été bouleversée, qui a été transformée, eh bien, par l'impact de l'Église. À tel point que déjà en son temps, il y a quelques 2000 ans, il est écrit dans le livre des apôtres, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Nous sommes pourtant au début de l'Église, mais déjà les non-chrétiens avaient ce témoignage, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Et l'Église, aujourd'hui encore, bouleverse le monde. Jusqu'au jour béni et glorieux que nous attendons avec hâte, eh bien, où Jésus viendra prendre son Église. Alors là aussi, ça va avoir un impact sur le monde. C'est moins qu'on puisse dire, hein, parce que ça va faire drôle. Mais on ne va pas parler de ça ce matin. Donc, nous voulons faire confiance au Seigneur dans cette génération où le monde se barricade ou s'enferme, comme Jéricho se barricadait, s'enfermait à l'approche des enfants d'Israël. Ce monde devient de plus en plus barricadé, de plus en plus enfermé, de plus en plus hermétique à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Il s'enferme dans toutes sortes d'idéologies. Il ne veut rien entendre de ce qui vient de Dieu. Ils ne répondent pas, ils ne veulent pas répondre à l'invitation, à l'amour de Dieu. Aussi, eh bien, ils ont préféré les ténèbres et ils auront pour fin les ténèbres. Mais nous voulons, tant qu'il est encore jour, être de ceux et de celles et qui, j'allais dire, détruisent ces murailles qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, tous ces faux raisonnements qui s'élèvent contre la fausse, contre la connaissance de Dieu. Il est celui qui revient bientôt et qui nous aide dans ce combat spirituel. Croyons que ce qui nous arrive va avoir une influence sur d'autres personnes. Récemment, il y a quelques jours, la semaine dernière, je visitais une mamie qui a quelques problèmes de santé dont elle se serait bien sûr passée. Et je suis allé la voir à l'hôpital et à côté d'elle, il y avait une autre malade, une autre dame. Et à peine j'ai eu dit bonjour à la mamie, que l'autre dame me dit « Est-ce que vous pouviez prier pour moi ?» On aime bien quand c'est comme ça. Hein. On aime bien quand c'est comme ça. En fait, parce que la mamie qui est chrétienne lui avait tout simplement dit « Mais le pasteur va venir, et il va venir. » Et donc, elle avait témoigné de sa foi. Et la dame à côté a saisi l'occasion. Elle saisit l'occasion. Elle voulait que quelqu'un prie pour elle. Alléluia. Bien sûr, elle se serait passée de cette hospitalisation la même. Bien sûr. Mais à côté de ça, elle n'aurait pas pu témoigner de sa foi à cette dame. Voyez comment Dieu dirige les choses. Comment le Seigneur dirige les choses. Et puis surtout, j'avais prié quelque temps auparavant, dit « Seigneur, mets sur ma route des gens qui réclament, qui ont besoin de toi. » C'est ce qui s'est passé. Donc vous savez, le Seigneur, il dirige toutes choses. Et c'est vraiment ce que je voudrais relever au travers de Rahab ce matin. C'est Rahab, c'est à la fois la foi en action, Hébreux 11, mais et en même temps la main providentielle de Dieu. Dieu dirige les événements. Josué a envoyé deux espions qui arrivent chez elle. Pourquoi ces deux hommes vont chez une femme de mauvaise vie? Pourquoi et comment? Ça, c'est pas écrit. Ils sont envoyés secrètement pour avoir des renseignements. On peut essayez de comprendre. Ce sont des hommes d'Israël qui sont attachés à la loi de Moïse, donc ils ne vont pas fréquenter ce genre de femmes. Ils sont là et ils vont chez cette femme prostituée. Peut-être cherche-t-il à avoir des renseignements. C'est possible. Certains sont gênés par le terme de prostituée. Certains traducteurs ont été gênés et ont traduit hôtelière. Sauf que... Alors, il est possible que ce soit une hôtelière, une aubergiste qui avait des chambres d'hôtes, mais qui donnait d'autres services, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, dans le Nouveau Testament, c'est le mot « porné » qui a donné le mot « pornographie ». Donc, elle avait des mœurs douteuses. On ne peut pas se tromper sur ce terme. C'est bien, elle est bien une prostituée. Il est possible, bien sûr, qu'elle ait eu une auberge et qu'elle... voilà, fasse certaines choses. En tout cas, c'était pas bon d'aller chez elle. Le qu'en dira-t-on, etc. Même si, bien sûr, on est à Jéricho. Jéricho est une ville corrompue, une ville idolâtre. Mais quand même. Il se trouve chez cette femme. Qu'est-ce qu'ils font là? Cherche-t-il un endroit discret pour dormir? C'est raté parce que le roi de Jéricho l'a su. Hein. Ce n'était pas forcément un endroit discret. Par contre, c'était peut-être un endroit où il pouvait avoir des renseignements, parce qu'il devait y avoir un peu de passage. voilà, donc. Et si effectivement c'était aussi en même temps une auberge, donc en mangeant, etc., il pouvait essayer de discuter et avoir des renseignements. En fin de compte, on ne sait pas pourquoi exactement ils sont allés chez cette femme, mais au-delà de tout cela, il y a eu la main providentielle de Dieu. Il y a eu la main providentielle de Dieu. Si Josué n'avait pas envoyé ces deux espions, il n'avait même pas besoin de l'envoyer parce que Dieu leur avait assuré la victoire, ils auraient été vainqueurs. Ça ne changeait pas grand-chose. Mais quand même, Josué les a envoyés. Et derrière tout ça, Dieu savait qu'il y avait une femme qui pouvait être sauvée, elle et sa famille. Cette femme avait tout contre elle. C'était une Cananéenne. Or, les Cananéens, depuis des siècles, étaient sous le coup d'une malédiction. Il ne faut pas l'oublier. Depuis l'histoire de Canaan, Cham, Canaan, il y avait une malédiction prononcée par Noé sur ce peuple-là. Mais ça ne voulait pas dire que s'il y a une malédiction sur le peuple, que tous seraient perdus. Cette femme a été sauvée, elle, la Cananéenne. Et dans la Bible, il y a des paroles qui sont prononcées sur certains peuples. On lit le prophète Ésaïe. Alors le prophète Ésaïe, il est parlé de plusieurs peuples, et il en va de certaines prophéties qui sont parfois dures envers certains peuples. Mais ça ne veut pas dire qu'aucun de ce peuple ne va se convertir. Il y a des paroles, par exemple, assez dures sur l'Égypte. Mais il faut voir, bon nombre sont convertis en Égypte. Alléluia. Des milliers d'Égyptiens sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et il en va ainsi de certains peuples. Mais elle était cananéenne. Or, ils s'étaient installés sur la terre que Dieu avait promise à Abraham. Et ils vont être envahis par les enfants d'Israël. Elle est au sein d'un peuple idolâtre et rebelle, parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que ce peuple-là était des rebelles. Ils ne voulaient rien entendre de Dieu. Et puis, bien sûr, aller en bas de l'échelle sociale, c'est une prostituée. Donc elle avait tout contre elle. Sauf que Dieu a vu son cœur. Dieu a entendu son cœur. Et Jésus dira aux pharisiens, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans les royaumes de Dieu. Et le Seigneur va conduire ces hommes chez elle. Et elle va connaître le salut. Dieu dirige les circonstances pour le salut des âmes. Nous voulons le croire, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Cette femme est une femme de foi. En tout cas, elle va le devenir. Puisqu'il est question d'elle, dans Hébreux chapitre 11, il est parlé de la foi de Rahab. Et Jacques, au chapitre 2 de son épître, lorsqu'il fait son exposé sur les œuvres et la foi, en disant que les œuvres, eh bien, démontre la foi véritable, il va citer deux personnages, un qui ne fait pas débat, le père des croyants, c'est-à-dire Abraham. Le deuxième personnage, il aurait pu choisir, il y avait le choix dans la parole de Dieu. Qui choisit-il pour donner un exemple sur les œuvres de la foi? Rahab, la prostituée. Donc cette femme était vraiment une femme de foi qui a démontré sa foi, parce qu'elle a pris un risque, elle a démontré sa foi par des œuvres. Au chapitre 2, au verset 8, chapitre 2, verset 8. On va lire quelques versets. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que je vous laisserai vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Cette femme est une femme de foi, on le voit dans ce passage. Elle sait, au verset 9, elle sait que Dieu a donné ce pays aux enfants d'Israël. Elle le sait. Elle a appris. Elle a appris comment ils sont sortis d'Égypte. Elle a appris. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. D'où l'importance d'annoncer l'Évangile. On voit que ça s'est su. Ça s'est su ce qui s'est passé, comme je le disais tout à l'heure, et ça a fait naître la foi chez elle. Mais ça n'a pas fait naître la foi chez les autres habitants de Jéricho. Au contraire, eux, ils se sont enfermés, se sont barricadés, ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils se sont braqués à l'action de Dieu, ils se sont braqués à cette connaissance qu'ils avaient entendue, à tout ce qu'ils avaient entendu dire des enfants d'Israël, ils se sont braqués. Oui, ils ont eu peur, mais ils ont eu peur de l'homme. Tandis qu'elle, elle a eu la crainte de Dieu. C'est toute la différence. Toute la différence est là, c'est que les habitants de Jéricho ont eu la peur d'Israël, tandis qu'elle, elle a eu la crainte de Dieu. Elle a eu la crainte de Dieu. Et elle va confesser sa foi. Regardez ce qui est écrit, elle confesse sa foi, verset 11, à la fin du verset 11. « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » N'oublions pas que c'est une Cananéenne. Nous n'oublions pas que les Cananéens étaient des idolâtres. Ils avaient plusieurs dieux, ils avaient des idoles, ils ne croyaient pas en l'Éternel. Donc il s'est déjà passé quelque chose dans le cœur de cette femme. Déjà il s'est passé quelque chose dans son cœur puisqu'elle dit, elle confesse que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux, c'est le seul Dieu, car c'est l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Elle a déjà abandonné ses idoles. Quand elle a su comment les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, alléluia, eh bien cette femme a cru en l'Éternel. Personne ne le savait en Israël qu'il y avait à Jéricho une femme qui s'était convertie à Dieu, qui confessait sa foi en Dieu. Personne ne le savait. Lorsque Josué a envoyé les espions, il ne savait pas du tout, mais Dieu le savait, Dieu voit les cœurs. Il y a des gens qui se convertissent tout seuls. Ça a été mon cas. Il y a des gens qui se convertissent tout seuls. Dieu parle à leur cœur. Nous ne les connaissons pas et nous ne savons pas qui ils sont. Mais Dieu nous met sur leur chemin. d'une manière parfois tout à fait fortuite. Je me rappelle un jour, c'était la nuit plutôt. Il faisait nuit, et puis j'avais plus de carburant dans la voiture, il y a quelques années déjà, et je me trompe, au lieu de mettre du diesel, je mets de l'essence. Bon, vous voyez ce que ça fait pour le moteur, c'est pas très bon. Heureusement, je m'en suis aperçu tout de suite, et il y avait un garage juste devant, et le garagiste a purgé le réservoir d'essence, et j'ai dû refaire un plein. Tout ça, ça m'a retardé quand même. Il y avait une réunion à l'église, ce soir-là. Qui était là? Celui que j'appellerai Nicodème, parce qu'il était venu de nuit. Un Algérien, qui m'attendait. Il me dit, mais si j'avais pas fait ça, si je ne m'étais pas trompé de carburant, j'aurais pas pu parler à cet homme qui m'attendait pour me parler en pleine nuit. Dans un endroit sombre, il m'attendait. Vous voyez, Dieu nous dirige. Et ce qui, parfois, nous pensons une catastrophe, on le voit, peut devenir une bénédiction parce que Dieu connaît les cœurs et il nous place sur le chemin de certaines personnes. Sur le coup, c'est vrai, ça fait un peu râler quand il nous arrive certaines choses. Mais, on dit, mais la main de Dieu était là. La main de Dieu était là. Personne ne le savait, mais Dieu voyait cette femme. Dieu voyait déjà le cœur de cette femme. Elle confesse sa foi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui touches les cœurs. Cette femme, non seulement confesse sa foi, mais c'est une femme dont la foi est active. Elle va plusieurs fois démontrer sa foi par ses œuvres, comme dit Jacques. Elle va cacher les espions. Certes, elle va mentir. On est en temps de guerre. Hein. C'est une question de vie ou de mort. C'est comme les sages-femmes des Hébreux en Égypte. Hein. Hein. C'est une question de vie ou de mort. C'est pas de la rigolade, là. On n'est pas en train de s'amuser. Hein. C'est un temps de guerre. Et peut-être que nous avons du mal à savoir ce que c'est que de vivre en temps de guerre. Certains ont vécu la guerre parmi nous. Ils le savent. C'est difficile. Et cette femme, donc, va cacher les espions. Elle va risquer sa vie. Elle risque sa vie parce que si ça se sait qu'elle a caché les espions, eh bien, elle risque de mourir. Il y aura des représailles. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, il rigole pas, lui. Hein. Nous sommes en guerre aussi. Et il y a des représailles sur les enfants de Dieu. Il y a des représailles, Satan mène des représailles sur les enfants de Dieu. Bien sûr, nous sommes en temps de guerre, mais nous savons qui a la victoire. Alléluia. Nous savons que Jéricho va être terrassé, et nous savons que le diable aussi, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Elle va suivre à la lettre les recommandations des deux espions. Elle va rester confinée chez elle avec sa famille, parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir pendant le combat. Et puis, il y aura ce fil rouge, on ne va pas en parler. Elle va donc observer à la lettre tout ce qui est recommandé, et puis elle va quand même réussir à convaincre sa famille, parce que si on sait qu'elle, elle confesse sa foi dans le Dieu d'Israël, c'est peut-être pas le cas de ses frères, de ses sœurs, de ses parents. Mais il nous est dit que ses parents, ses frères, ses sœurs aussi furent épargnés, ce qui veut dire qu'ils ont cru à la parole de Rahab. Elle a su convaincre sa famille et nous voulons prier le Seigneur pour que nos familles puissent être convaincues comme nous l'avons été et qu'il nous aide vraiment à leur témoigner de tout cela. Cette femme habite en plus dans un endroit dangereux. La première chose qui va être détruite à Jéricho, ce sont les murailles. Or, où habite-t-elle? Sur les murailles. Alors, certains détracteurs de la Bible ont voulu y voir une contradiction. Sauf que des archéologues allemands, au début du XXe siècle, ont fait une découverte tout à fait intéressante. Il y avait des doubles murailles à Jéricho, des murailles parallèles, Et puis, ils ont découvert qu'à un seul endroit, la muraille n'avait pas été détruite. Les pierres parlent. S'ils se taisent, les pierres parlent. Alors, le Seigneur est grand. Alléluia. Alors, le Seigneur a agi d'une manière, là aussi, miraculeuse pour épargner cette femme. Et cette femme est entrée dans l'Alliance. Elle qui était cananéenne, elle va faire partie maintenant du peuple d'Israël. Elle va, avec tout ce que cela implique comme devoir et comme responsabilité, comme droit aussi, elle va faire partie du peuple d'Israël. Mais on sait que son cœur est déjà à Dieu, tout comme Ruth, qui deviendra sa belle-fille, fera la confession, un jour ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle aussi a vécu ça. Et cette femme va changer complètement de vie parce qu'elle ne va pas rester prostituée. Sa vie va changer. Elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va avoir une vie normale. Ce qui va dire aussi, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Salmon qui fait partie de la tribu de Juda. Or, là encore, celui qui est tombé amoureux d'elle, c'est quelqu'un qui fait partie de la tribu de Juda dont il avait été dit prophétiquement que de cette tribu-là viendrait le Messie. Merci Seigneur. Vous voyez, Dieu dirige toutes choses. Alors, Salomon va épouser... Mais quel homme? Quel homme aurait voulu épouser une femme avec un tel passé? Il ne devait pas se bousculer. Vous savez, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Quoi que nous ayons pu faire dans le passé, il y a le pardon de Dieu et il y a un recommencement possible avec le Seigneur. Toutes choses deviennent nouvelles avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons tous un passé. Mais nous avons tous le même Dieu qui change nos cœurs et qui nous donne un avenir et une espérance. Il n'y avait plus aucun avenir pour cette femme à Jéricho, plus rien. Mais Dieu lui a donné un avenir. Et quel avenir ! Quelle espérance ! Elle ne le sait pas, elle, qu'elle va donner naissance, qu'elle sera partie de la généalogie de Jésus. Elle ne le sait pas, qu'elle va devenir l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Elle ne le sait pas, tout cela. Mais le Seigneur lui a changé sa vie. Alléluia. Lui a donné un avenir et une espérance. Quoi que nous ayons pu faire, quoi que ce soit que vous ayez pu faire, quel que soit votre passé, vous avez en Christ un avenir et une espérance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand bien même on serait le pire ou la pire des femmes sur cette terre, le Seigneur nous recueille. On voit les gens dans la parole de Dieu, dans les évangiles qui s'approchent de Jésus. Et Jésus les accueille. Ils changent leur vie. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur pour de tels exemples comme Rahab. Nous voulons encore des Rahab aujourd'hui. Nous voulons de ces femmes de foi, de ces hommes de foi qui, comme Rahab, sont dirigés par Dieu, ont le cœur touché par Dieu, qui, comme Rahab, vont avoir un impact sur leur société, sur leur génération, qui, comme Rahab, vont changer les choses. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. On va lui rendre grâce et le remercier de tout notre cœur. Merci Seigneur pour l'exemple de cette femme. Tu as su gagner son cœur. Elle a confessé ton grand nom. Que seul toi es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous voulons nous aussi réaliser ce à quoi tu nous appelles. Alors que ce monde s'enferme dans les ténèbres, se barricade de plus en plus, Seigneur, tu as su au sein de ces ténèbres nous sortir et nous faire passer à ton admirable lumière. Oh, que ton nom soit glorifié. Nous voulons croire que d'autres vont sortir de cela. Que d'autres aussi, Seigneur, vont confesser ton nom, Seigneur puissant. Que d'autres vont croire au message de la croix, vont croire à la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Oh, merci, car ce monde, s'il s'enferme, nous savons que toi, tu es plus grand. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Merci, Seigneur, c'est toi qui délivres les captifs, Seigneur, qui sont tenus captifs par toutes sortes d'idéologies, par toutes sortes de liens spirituels. C'est toi qui les délivres au nom de Seigneur Jésus-Christ, qui a remporté la victoire sur la croix. Oh, merci, Seigneur Jésus. Dirige nos pas, dirige les événements de nos vies, Seigneur, afin que nous soyons mis au contact de personnes qui déjà, Seigneur, te cherchent dans leur cœur. Vraiment, c'est toi et toi seul qui peux le faire, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen.